Allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. Je me pose la question. Oui, l'or, le pétrole, le cacao, le café, toutes les matières premières flambent, alors que la Chine se réveille à peine, que l'Europe est proche de la récession et que seuls les États-Unis tournent. Pas à plein, c'est pas non plus à surchauffe. Hein. Comment on explique ça? Alors, le contexte géopolitique, sûrement?
Alors, il y a un peu de contexte géopolitique, mais je pense que quand même le diagnostic doit être un peu plus raffiné, parce que vous avez quand même beaucoup de...
Alors celle-là, elle est directe.
Bon, raffiné, c'était pour parler du pétrole.
Non, mais j'ai compris. J'aime bien vous... Franchement, là, vous m'avez chauffé, là. C'est bon, là. J'ai plus besoin de rien, c'est bon.
Donc, c'était pour parler du pétrole.
Bien sûr.
Et en fait, le pétrole, on sort d'une période pendant laquelle on a sous-investi en termes d'exploitation. Quand en 2020, on a eu une chute de 35% de l'investissement dans le pétrole. On sait qu'il faut 4 ans, 5 ans pour qu'on voit la traduction de cette absence d'investissement en termes d'offres.
Donc, qu'on y est là.
Donc là, on est dedans. Donc là, vous avez des déterminants qui sont un peu l'ombre portée de ce qui ne s'est pas passé pendant plusieurs années. Ça, c'est quelque chose qui est de nature plus structurelle, sauf si, parce que le prix fait son effet signal, vous avez les investissements qui repartent. Okay. Et il y a quand même des investissements en exploitation qui sont repartis. Mais quand vous regardez aussi certaines matières premières, par exemple le blé, le maïs, vous avez, là, on a totalement effacé la hausse qui était intervenue au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Donc, on n'a pas une vision qui est très homogène, en réalité, sur les matières premières. Vous avez, en fait, à chaque fois, des circonstances très particulières. On le voit sur le cacao.
Pas un problème matière première, c'est pas en général, c'est spécifique, c'est le cacao.
Exactement. Et puis,
c'est le café.
Et c'est pas la spéculation aussi. Faut tendre le bras, je pense, à cette spéculation. S'il y a une accélération des hausses de prix sur certaines matières premières, le cacao en premier lieu, c'est parce que la spéculation, en fait, peut se mettre sur un déséquilibre fondamental de marché. Elle accentue le déséquilibre, mais elle n'est pas à l'origine du déséquilibre de marché. Et donc, on est vraiment sur des situations qui sont très particulières à chaque fois.
Si on suit le raisonnement de Denis, et qu'on dit bon, c'est spécifique à chaque matière première, qu'est-ce qui explique la hausse de l'or alors?
Alors vous avez ce qu'on met un peu en avant d'une manière erronée, c'est
ça. Soyez raffiné.
Bah, j'essaie toujours. Je suis même habillé, vous avez
vu. Je pense que c'est sa montre qui explique le.
Ouais. Non, mais ça, c'est le côté bling-bling. Mais au-delà de ça, sur l'or, vous avez souvent, on vous met en avant, c'est le risque, la crainte sur les États. J'ai vu certains analystes revenir avec ça, souvent très direct, c'est pas du tout ça. Il faut regarder qui achète sur le marché. Aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui ont un rôle de market maker sur le marché. C'est bien qu'on parle de l'or. Il y a eu 2 jours de ça, les chiffres d'achat net des banques centrales qui ont été publiés au niveau mondial. Février, plus 19 tonnes d'or. En 2023, on était sur un record, plus 650 tonnes d'or. Ça fait quand même monter.
Pourquoi elles achètent?
Pourquoi
les banques centrales achètent de l'or?
Vous avez deux stratégies. Vous avez la stratégie qui est un peu à la chinoise, c'est-à-dire on est des dollarisations et on fait ce qu'avait fait la Russie à partir de 2015 parce qu'on se dit, bon, ça peut être compliqué si la situation géopolitique devient un peu plus néfaste. Et le deuxième acheteur de tonnes d'or en 2023, c'est la Pologne. La Pologne, bien sûr, c'est pas la dédollarisation, c'est pas le sujet, mais ils sont sur une gestion fine des réserves de change. Et d'ailleurs, vous regardez, les banques centrales aujourd'hui intègrent aussi, dans des parts très infimes, des devises émergentes et c'est plus uniquement le dollar et l'or. Donc c'est vraiment une gestion un peu comptable. Et ça, ce mouvement va perdurer. L'autre facteur qui est structurel.
Ce mouvement va perdurer. Pour vous, la hausse
pour les
de
banques centrales, la hausse de l'or liée aux banques centrales, c'est très clair, ça va perdurer. Okay. Et rapidement, vous avez un autre phénomène qui est toujours en Asie et qui est les achats de la part des, tout simplement, des investisseurs chinois qui achètent beaucoup d'or au lieu d'acheter des actions. Et aussi structurellement aussi, l'Inde est un acheteur important d'or, mais pour du retail.
Et bientôt, il y aura les rentiers qui en achèteront. Si on leur promet une tonsure,
ils iront.
Forcément.
Ouais. Stéphanie, dans votre gestion privée, puisque vous avez pas mal de gestion privée, est-ce que vous intégrez les matières premières ?
Un peu par le biais de trackers. C'est vrai qu'il y a des clients et c'est souvent peut-être des classes d'âge un peu plus âgées qui veulent
de
l'or.
Pourquoi vous me regardez, non ? Ça devient gênant.
Je n'ose plus.
De vieillard. Enfin, bon.
Quand vous aurez les plus jeunes qui effectivement auront plus envie d'avoir des ETF sur les cryptos, je pense que effectivement c'est un peu deux mondes différents. Mais sur l'or, effectivement, je pense qu'on a vraiment le sentiment de se protéger contre l'inflation. Et vous voyez certains pays à forte inflation où les gens vont tout de suite changer leur salaire en or, et c'est le bas de laine, on se garde ça comme réserve et ça permet.
Et pourtant, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on est plutôt en période de baisse de l'inflation, donc on aurait pu se dire que le côté valeur refuge, donc c'est.
Sur le long terme, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est vraiment un pare-feu contre l'inflation sur le long terme. Donc,